Les films qui ont changé nos regards, Michel Halberstadt.
Bonjour. Hier, nous écoutions Le Mépris de Jean-Luc Godard. Alors, je vous remercie parce qu'il y a un auditeur hier qui m'a envoyé sur Twitter la musique italienne du film, parce que je vous disais que les Italiens avaient changé la sublime musique de Delru pour une composition italienne de leur choix. Voilà, bon, on la mettra sur la page de l'émission d'hier. Comme ça, vous pourrez tous apprécier à quel point les Italiens sont fous. Bonjour donc, aujourd'hui, le deuxième film de notre série d'été, flashback sur l'année 1949. Alors si je vous dis « Vienne en noir et blanc, un enterrement, des égouts, une grande roue et une cithare », bah oui, c'est Le Troisième Homme, un film phare de l'immédiat après-guerre qui a remporté le Grand Prix au Festival de Cannes. À l'époque, la récompense suprême ne s'appelait pas encore la Palme d'Or. Au casting de ce film du Britannique Carol Reed, l'Américain Joseph Cotten, l'Italienne Alida Valli, le British Trevor Howard et la guest star la plus inoubliable de l'histoire du cinéma, puisque trois scènes seulement suffisent à ce qu'il prenne toute la lumière, Orson Welles. Pour évoquer Le Troisième Homme avec nous ce matin, je suis ravie de recevoir le cinéaste et très cinéphile Philippe Le Guay. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez commencé par faire des études de cinéma à l'IDEC. Vous avez croisé des futurs collègues réalisateurs comme Pascal Ferrand, Éric Rochant et Arnaud Desplechin, qui sera assis à votre place dans 8 jours. Parallèlement, vous écrivez dans cette brillante revue qu'était Le Cinématographe. Vous avez croisé d'autres futurs collègues, scénaristes cette fois, Jacques Fieschi et Jérôme Tonnerre. Vous commencez d'ailleurs par là, par écrire un scénario pour Nicole Garcia, 15 août. Et puis vous réalisez votre premier film en 89, Les Deux Fragonards, avec Robin Renucci et Samy Frey. Suivra un deuxième scénario pour Nicole Garcia, Un week-end sur deux, votre deuxième film, L'année Juliette avec Fabrice Lucchini. En 2001, vous réalisez Les 3-8, en 2003, Le coup de la vie, film choral avec de nouveau Lucchini, Vincent Lindon, Claude Rich. En 2011, une comédie, Les femmes du sixième étage, avec toujours Lucchini, Sandrine Kiberlin et Carmen Mora, qui sera présentée à la Berlinale. En 2013, ce sera Alceste à bicyclette avec Fabrice Lucchini et Lambert Wilson, une nomination au César. En 2015, vous réalisez Floride avec Sandrine Kiberlin et Jean Rochefort dans son dernier rôle. 2018, c'était Normandie nue avec François Cluzet. Et prochainement, en octobre, vous sortirez L'homme de la cave avec François Cluzet, Bérénice Béjot et Jérémy Régnier. Vous êtes sans chapelle, vous alternez comédie, film en costume, drame social. Vous êtes un grand cinéphile et vous dites que vous apprenez la vie au cinéma, surtout la vie quotidienne. Et que c'est par exemple Baiser volé qui vous a appris, comme à moi, comment on peut beurrer une biscotte sans qu'elle ne finisse en miettes. Et mais surtout, ce que vous aimez, c'est, dites-vous, suivre un personnage qui prend toute la place. Alors avec Le Troisième Homme, vous êtes servi. Voilà, vous êtes fichu, je vous préviens, la ritournelle restera dans votre cerveau toute la journée. C'est celle d'Anton Karas à la cithare, que Carol Reed avait rencontré à un cocktail et il s'est dit « c'est la musique qu'il me faut pour mon film » parce que c'est un regard ironique sur l'action. Ça vous est déjà arrivé de choisir des musiques avant d'aller tourner ?
J'aurais bien aimé, mais malheureusement, je crois qu'il y a une autre anecdote qui raconte que Carol Reed était à la terrasse d'un restaurant et que Anton Karas jouait devant le restaurant. C'était pas vraiment un musicien des rues, mais en tout cas c'était pas un musicien consacré. Et donc il a eu un coup de foudre pour cette musique. Selznick, qui était le producteur du film, avait prévu tout un orchestre, une partition hollywoodienne. Et Carol Reed a eu le courage de maintenir cette musique et le choix de ce musicien pendant tout le film. Et d'ailleurs, puisqu'on est sur la musique, ce qui est très curieux, c'est que le Troisième Homme, c'est un film noir, angoissant, avec une atmosphère
sombre,
très sombre, enfin après-guerre, avec les restrictions, le marché noir et un climat très très angoissant. Et cependant, cette musique,
Guillerette.
elle installe une sorte de contrepoint ironique,
ouais, ouais,
qui correspond à la nature du personnage central. Quoi comme invisible, joué par Orson Welles.
Alors ce qu'il y a de fou, c'est qu'en 6 mois après la sortie du film, il y aura eu 17 versions enregistrées de cette musique, tellement elle a fait un carton. Alors, le film donc a été présenté à Cannes en 49. À l'époque, le festival démarrait, c'était la 3e édition seulement. Cannes avait lieu au mois de septembre. Et vous allez voir que être membre du jury, c'était pas une sinécure. Alors c'est une émission de radio qui date de 49, qui s'appelait La Tribune de Paris. Alors vous allez voir, c'est un peu de la radio à l'ancienne.
Je vais demander au pouvoir public, en la personne de Monsieur Desson, que j'ai juste en face de moi, ce qui l'a le plus impressionné au cours de ce festival du film.
Ah, la question n'est pas facile à répondre. Ce qui m'a le plus impressionné, c'est d'abord la quantité de films que nous avons été obligés de digérer. Et je vous assure que, avec la température qu'il a pu faire à Cannes, nous n'avons pas eu tous les jours la partie belle.
Voilà Philippe Leguet, voilà un juré difficile à satisfaire. Vous avez déjà été membre du jury, oui, souvent, jury
non, alors,
de cinéma.
Divers jurys, mais pas à Cannes. Non, effectivement, à chaque fois qu'on est assis à la table d'un jury pour commenter des films ou les juger ou les apprécier, on pense inévitablement à ce film de Sidney Lumet, à 12 hommes en colère. On se retrouve très vite dans la position où on veut défendre coûte que coûte un film contre les autres, et parfois il faut retourner de manière subtile un par un les différents membres du jury.
Mais parfois on fait des alliances aussi.
Oui, mais c'est un exercice vraiment passionnant parce que on a une sorte de température de l'état du monde à travers les films qui sont proposés à un certain moment, et donc on est assailli. En fait, le principe de désigner le meilleur film à quelque chose d'un peu choquant. On va pas au cinéma pour donner des médailles, on va au cinéma pour vivre une expérience de spectateur. Mais cependant, bon, la règle du jeu dans un jury, c'est d'essayer de trouver le film le plus enthousiasmant et le plus inspirant, oui.
Alors, Le Troisième Homme est une idée de producteur. C'est Alexander Korda qui dirigeait la London Studio. Alexander Korda, Graham Greene et Carol Reed sortent d'un succès qui s'appelait Première Désillusion, The Fallen Idol. Je ne sais pas si vous l'aviez vu.
Oui.
Voilà, qui avait été désigné meilleur film anglais avec 2 nominations aux Oscars. Donc, Korda dit à Greene, il faut absolument qu'on écrive autre chose. Et Green cherche, il n'a pas d'idée, alors il retrouve une vieille enveloppe où il y avait écrit « Un homme enterre son meilleur ami, puis le croise dans la rue, il n'est pas mort ». Alors il vient voir Korda, il lui dit « Voilà, on va tourner ça dans l'Ostrand ». Mais Korda dit « Non, 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 moi j'ai de l'argent bloqué en Autriche depuis la guerre et je ne peux pas le sortir. Donc il faut absolument que je tourne un film en Autriche, parce que sinon cet argent voilà, sera perdu. » Et c'est pour ça qu'ils sont allés tourner en Autriche.
On s'aperçoit que dans la création des plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, il y a toute une part de hasard, d'accident, de l'argent bloqué comme ici, un acteur qui n'est pas libre et qui brusquement est remplacé par un autre, parfois un acteur qui se casse une jambe et la mise en scène doit trouver la manière de le mettre en scène. Je pense par exemple à Lubitsch qui tournait avec cet acteur qui s'appelait Herbert Marshall qui avait une jambe de bois et donc il s'ingéniait à le faire déplacer de toutes les façons dans le cadre. C'est vrai que la part de hasard et la part d'accident dans la création d'un film est extraordinaire. Et des années plus tard, quand on découvre un film, tout nous paraît pour argent comptant. Il est évident que Orson Welles devait jouer ce rôle. Il est évident que le film devait se passer à Vienne, par ailleurs, dans cette Vienne détruite, avec une atmosphère qui garde encore toutes les plaies de la Seconde Guerre qui s'est terminée il y a 3 ans plus tôt, parce que le film a été tourné en 48.
Alors justement, 48, pourquoi est-ce que Vienne était dans cet état et pourquoi surtout la ville était-elle coupée en 4? J'ai posé la question à l'historien et homme absolument érudit et passionnant qui est Pierre Assouline.
En 1938, l'Autriche et l'Allemagne ne font qu'un pays depuis l'Anschluss. Alors, pendant la guerre en 43, Staline avait dit dès que on aura libéré l'Europe, évidemment, l'Autriche retrouvera son indépendance et l'Anschluss sera obsolète. Donc c'est ce qui s'est passé dès la capitulation. L'Autriche a été séparée de l'Allemagne, mais en même temps, elle devait autant être punie que l'Allemagne, puisque bon, Hitler était autrichien et ces deux pays n'ont fait qu'un pendant toute la guerre. Donc il y a eu 2 villes qui ont été occupées, c'est Berlin et Vienne. Donc ce qui nous intéresse, c'est Vienne, bien entendu, puisque Le Troisième Homme a mis en lumière très particulièrement le statut de Vienne, donc découpé en 4, puisque c'est le nombre des alliés, des forces alliées qui sont en présence à ce moment-là dans l'Europe libérée. Donc français, anglais, américain et soviétique.
Alors c'est une ville crépusculaire où la pègre est totalement cosmopolite.
Oui, et ça rappelle un petit peu Le Maudit. Hein.
Absolument.
Il se déroule bien avant, bien entendu. Mais on pense à Peter Lorre. Enfin, on verrait Peter Lorre surgir dans les égouts de Vienne, qu'on ne serait pas étonné. parce que c'est tout à fait ça, et puis c'est évidemment la pègre qui régit un peu tout ça. Donc, la pègre est un personnage, si je puis dire, fondamental dans le troisième homme, parce que le personnage de Harry Limes est un trafiquant de pénicilline frelatée, et qu'il est en relation constante avec, justement, la pègre qui a la mainmise sur tout ce qui est marché noir, trafic, puisqu'on manquait de tout. Hein. À ce moment-là, on manquait absolument de tout. Il y avait une famine rampante, on manquait de médicaments, on manquait de biens de première nécessité. Donc, les trafiquants tenaient le haut du pavé.
Et c'est intéressant de constater, dans le film en tout cas, et c'est en ça qu'il est assez politique, c'est que Harry Lime est protégé par les Russes. Il se cache en zone russe. Il dit que dans cette zone-là, il ne risque pas d'aller en prison.
Les Soviétiques, hein, plutôt que les Russes.
Pardon, oui.
Qu'il pourrait toujours s'arranger avec eux, ce qui ne serait pas le cas avec les Américains ou les Anglais. Il faut bien voir que, évidemment, c'est un film politique, obligatoirement. Ce n'est pas une histoire d'espionnage.
C'est comme ça que vous le voyez aussi, Philippe Le Guay, un film politique et pas une histoire d'espionnage?
Alors, je proposerai une autre interprétation. Pour moi, c'est un film sur le mal, sur la figure du mal. Et ce qui est intéressant, c'est que, au sortir de la guerre, au fond, le mal, c'était le nazi.
Oui.
Et le nazi, avec évidemment, en plus, le film est postérieur à la découverte des camps d'extermination. Et donc, le mal absolu, c'est évidemment les nazis avec la découverte de la Shoah, enfin, de 6 millions de morts, de 6 millions de juifs exterminés. Et cependant, à cette figure du mal, du nazi, Carol Reed et Graham Greene proposent un autre visage. Un visage d'un Américain, Orson Welles, joué par Orson Welles, Harry Lime. Et c'est pas du tout un nazi, c'est un homme qui a une idée supérieure de lui-même et de son destin, mais qui est séduisant, qui a la séduction d'Orson Welles lui-même. Quand il tourne le film, il a 33 ans. Il est vraiment au sommet de sa séduction et il a ce sourire cynique, puisque c'est un cynique. Et on va bien sûr parler de la grande scène de la grande roue.
Ouais, mais on en parlera tout à l'heure.
Il exprime en tout cas son idéologie, sa vision du monde entre les puissants et les faibles. Et pour lui, au fond, c'est tout à fait normal que qu'est-ce que ça peut faire au fond que
les faibles meurent.
Que les faibles meurent, que ces petites fourmis en bas meurent, oui, puisque au fond, les forts doivent triompher.
Est-ce que vous aviez conscience que, enfin moi je l'ignorais vraiment, que Graham Greene avait été espion?
Non, alors ça je l'ai découvert, en fait Graham Greene c'est un peu l'ancêtre de John le Carré.
C'est ça.
Ouais. Un John le Carré qui serait catholique quand même.
Oui, il s'est converti, donc voilà, encore plus catholique que John le Carré.
Il est hanté par la foi, à vrai dire peut-être plus par la rédemption que par la foi.
Ouais.
Ce qui compte, c'est on a déchu et puis on peut renaître, on peut se réinventer pur et sanctifié.
Alors il y a beaucoup de gens qui ont vu dans le personnage de Harry Lime Philby, parce que apparemment, comme Graham Greene était espion pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a eu Kim Philby comme superviseur. Philby qui était un agent double, et donc beaucoup de personnes disent qu'il s'est inspiré de Philby pour écrire le personnage de Harry Lime.
C'est très vraisemblable, mais Philby, je me souviens, enfin, c'était Philby et Burgess, c'était les deux espions anglais, l'un converti à la cause de l'espionnage, disons, à la trahison parce qu'il était homosexuel, et l'autre parce que c'était un aristocrate supérieur qui n'avait qu'une idée, c'était de trahir sa classe.
C'est ça.
Mais dans le cas de Harry Lime, aucun de ces exemples ne recroise le destin de Harry Lime. Et d'ailleurs, on en sait très peu sur Harry Lime. Ce qui fonde sa présence dans le film, c'est l'amitié avec Joseph Cotten. Et ce qui est très curieux, c'est que c'est une amitié qui remonte à l'enfance, à l'adolescence. Ils se sont rencontrés à l'école, au collège. Et il se trouve que moi-même, j'étais pensionnaire dans une pension dirigée par des oratoriens qui s'appelait Saint-Martin. Et je me souviens de la présence de camarades qui tout à coup nous influençaient. C'est-à-dire qu'il y avait un personnage dont on entendait parler avant de passer dans la maison des grands, par exemple, parce qu'il y avait,
plusieurs maisons.
Voilà, il y avait plusieurs maisons. Et on entendait parler d'un type dont on savait qu'il avait une influence. Et évidemment, on rêvait d'être à son tour sous son influence. Et c'est exactement ça la nature de lien qui unit Joseph Cotten et Orson Welles.
Il n'a pas de chance, Joseph Cotten, parce qu'à chaque fois, il est sous l'influence d'Orson Welles. C'est déjà le cas dans Le Troisième Homme. Dans Citizen Kane.
Oui, mais alors en plus, par ailleurs, c'était les meilleurs amis du monde, puisqu'ils travaillaient ensemble au Mercury Theatre. Et Joseph Cotten est aussi dans La Splendeur des 100 personnes, où il est magnifique. Ce qui est très curieux, c'est que j'ai vérifié les dates. Il y a un autre personnage joué par Joseph Cotten qui tient à peu près le même discours des puissants et des faibles que Harry Lime dans le film. C'est L'ombre d'un doute d'Alfred Hitchcock. Et j'ai cru que L'ombre d'un doute était en fait postérieur au Troisième Homme, ce qui n'est pas le cas. L'ombre d'un doute a été tournée en 1943, donc j'ai été très surpris. Il m'aurait paru plus logique que Joseph Cotten incarne dans L'ombre d'un doute d'Hitchcock. Joseph Cotten tue des veuves. Oui. C'est un assassin de veuves.
Il a ce sourire charmant de Harry Lime.
Absolument. Et il a aussi cette. Mais là, on fait mieux connaissance avec lui. Et on le voit sur son lit. Il rêve un monde où il serait puissant. Et il explique d'ailleurs à quoi servent toutes ces veuves inutiles, grosses, qui mangent. Il y a toute une tirade terrifiante qui est comparable à celle de la tirade des fourmis dans Le Troisième Homme.
Alors, quand Graham Greene et le metteur en scène décident de faire le film, Korda décide de coproduire le film avec Zelnick, ils ont un accord ensemble. Mais donc, en gros, Korda se charge de la fabrication du film, Zelnick se charge de fournir les stars, sauf que Zelnick se charge aussi de donner des idées. Et le pauvre Graham Greene en garde de très mauvais souvenirs. Nous n'avons accepté aucune de ses idées. Mais malheureusement, selon son contrat, Zelnick nous amenait Anita Valli et Joseph Cotten. Et pendant 6 semaines avant le tournage, j'avais le droit d'intervenir et de discuter avec nous. Donc tous les soirs, on devait dîner avec lui. Le premier soir, c'est pas très bien passé. Il a attaqué en disant, franchement, vous écrivez, vous ne pourriez pas trouver un meilleur titre que Le Troisième Homme. Moi, je n'écris pas. Mais un truc genre La Nuit à Vienne. Et puis c'est quoi cette histoire homosexuelle ? Histoire homosexuelle ? Ben oui, le type vient, il cherche son copain. Il ne le trouve pas. On lui dit qu'il est mort. Pourquoi il ne rentre pas chez lui? Voilà, ça c'est Le Troisième Homme revu et corrigé par Zelnick. Vous êtes déjà arrivé d'avoir ce genre de conversation avec des producteurs?
Alors, fort heureusement, non. Enfin, quoique sur mon premier film, Les Deux Fragonards, je me souviens que mon producteur, enfin, j'avais trois producteurs à l'époque, il y avait trois producteurs qui étaient vraiment un peu comme les trois rois mages dans les contes. Vous savez, il y a celui qui a la boule de cristal voyante, il y a celui qui a le tapis dans Les Mille et Une Nuits, et puis il y a celui qui a la pomme qui guérit. Et à un moment, donc, pour sauver la princesse, et les trois producteurs, enfin, les trois mages s'unissent et en montant sur le tapis, ils peuvent voir à travers la boule de cristal, ils peuvent voir que la fille est malade. Ils montent sur le tapis, ils se transportent en un instant sur le lieu, et c'est la pomme qui guérit. Mais au fond, les trois ont participé à sauver la princesse. Et les trois producteurs que j'avais, il y avait un producteur qui s'appelait Cyril Dourouf, qui était un homme très puissant, qui avait une grosse société. Il faisait du sucre, il avait des hélicoptères. Ensuite, il y avait Christian Charret, qui était au CNC, qui était très très intelligent, un très bon lecteur de scénario, et André Lazare, qui était le troisième homme, très, très affectif, très pulsionnel. Il avait démarré de rien, voilà. Et cet attelage très curieux, au fond, était mon attelage. Et eux-mêmes, en fait, faisaient leur premier film en même temps que moi, donc personne n'avait vraiment la science infuse. Et je me souviens d'un dîner avec Cyril de Rouvre. Voilà, c'était vraiment la force de l'argent. Il disait, mais t'es lavandière, mais il faut les déshabiller dans ton lavoir. Il faut pas rester comme ça. Il dit, ah bon, oui. Fragonard, il peignait les filles à poil, oui. Enfin bon, voilà, c'était un peu l'échange que j'avais eu. Et heureusement, Christian Charret, qui était un peu bégayant, avait dit, non, mais peut-être qu'on n'a pas besoin de ça. Voilà. Mais vous-même, en tant que productrice, vous avez aussi tout. Sans arrêt,
c'est du dialogue, c'est pas, ouais, voilà, sûr, on n'arrive pas en disant il faut faire ci, il faut faire ça, et changez-moi le titre. Mais bon, c'est les méthodes hollywoodiennes, je suppose. Alors, on va revenir un peu à l'histoire du film. Donc, Holy Saint, c'est le nom de Joseph Cotten, arrive à Vienne parce que son ami d'enfance, Harry Lime, vous le disiez tout à l'heure, lui a promis du travail. Quand il arrive, on lui dit que Harry Lime vient d'être enterré. Il rencontre son ancienne petite amie, Anna, qui est une réfugiée qui a des faux papiers. Il comprend plus ou moins lentement, et nous avec lui, que Harry Lime visiblement se livrait à des choses assez louches. Et dans la scène qu'on va entendre maintenant, il a rendez-vous avec le concierge de l'immeuble où Harry habitait, parce que le concierge lui a donné rendez-vous en lui disant qu'il sait des choses sur la mort de Harry Lime. Quand il arrive avec Anna le soir à son rendez-vous, il découvre que le concierge a été assassiné. Et alors, c'est là où vraiment Carol Reed est très culottée. Tout le monde parle allemand, parce que tous les figurants sont des Allemands de Vienne. Il n'a pas du tout pris des gens à lui, il a pris des gens, des non-professionnels. Et vous verrez, il ne traduit pas l'allemand. Donc, on est... Comme Joseph Cotten, on ne comprend pas ce qui se passe. Et c'est Anna, l'ex-petite amie de Harry, qui va lui expliquer. Et vous allez voir que Carol Reed arrive à nous faire haïr un petit garçon qui croit savoir tout ce qui s'est passé. Papa, je l'ai vu, papa. Et le petit garçon est là avec son ballon. Alors le monsieur lui dit, mais vous avez quelque chose à voir avec la mort du portier ? Et il comprend rien, évidemment, le pauvre Cotten. Papa, c'est lui, je l'ai vu. Le portier a été assassiné, maintenant il le sait. Il l'a tué. Et là, il comprend que tout le monde pense que c'est lui et il s'enfuit dans les rues de Vienne avec le petit garçon qu'il poursuit avec son petit ballon. Et on a envie d'écraser le petit garçon.
France Culture. Les films qui ont changé nos regards. Michel Halberstadt.
Alors parlons casting, Philippe Leguet, si vous le voulez bien. Parce que Holly Martins, au départ, Carol Reed ne voulait pas du tout de Joseph Cotten. Lui, il voulait Cary Grant en premier choix, James Stewart en deuxième, mais ils n'étaient pas libres. Et donc Corda, qui avait Cotten sous contrat, lui a dit « ce sera Joseph Cotten ». Vous avez eu beaucoup de déboires de casting dans votre carrière ?
Oui, la plupart du temps, à chaque fois qu'on écrit un rôle en pensant à un acteur, l'acteur refuse et on se retrouve démuni puisqu'on a passé 8 mois, parfois plus, à penser à un acteur et à imaginer ses déplacements, sa voix, sa corpulence. C'est sur mon deuxième film, L'année Juliette, j'avais écrit un rôle en pensant à Jean Reno puisque c'était un rôle d'un anesthésiste. Et tous les amis anesthésistes que je connaissais, c'était des types très costauds, qui pesaient 100 kilos, on les voyait, ils rentraient dans le bloc opératoire, voilà, aussitôt avec leur poids, leur masse. Il suffisait qu'ils posent la main sur le bras de la petite fille ou de la vieille dame, et on sentait, voilà, ils prenaient en charge. Et puis Jean Reno, le personnage dans mon film était un menteur, enfin, se réfugiait derrière un mensonge, derrière une construction, il faisait croire qu'il avait une femme déjà dans sa vie. Et Jean Reno m'a dit, mais moi, je peux pas mentir dans un film, c'est pas possible. Moi, je dis toujours la vérité dans un film. Ah bon? Je dis, mais un acteur, pourtant, il faut bien qu'il mente de temps en temps. Ah non, mais moi, je mens pas. Et donc, j'ai été vraiment très démuni. Et puis l'idée m'est venue de je connaissais Fabrice Luchini avec lequel j'avais déjà travaillé, j'étais stagiaire sur un film et je le connaissais aussi de mes rencontres à cinématographe justement où il venait souvent et de passer de Jean Reno à Fabrice Luchini c'est dire l'écart quoi, c'est-à-dire voilà, c'était tout à coup le frêle Fabrice mais au fond parfois, ça peut être enrichissant d'écrire en pensant à un acteur et d'en avoir un autre. Parce que du coup, on amène l'acteur, le deuxième acteur, à trouver des gestes ou à compenser par ce qu'il est. Et au fond, on le fait, on déplace son image et on peut enrichir quelque chose. Je me souviens, j'avais fait une liste pour Fabrice Lucchini, j'avais fait une liste des gestes qu'il devait faire. Il devait parler plus lentement, il devait avoir un regard compassionnel, par exemple. J'avais fait toute une liste. On devait le voir trop torse nu. Je voulais lui donner une sorte de séduction virile qu'il a fini par avoir.
Et vous écrivez toujours avec quelqu'un en tête ou il vous arrive d'écrire à l'aveugle?
Alors, sur Alceste à bicyclette, là, ça m'est arrivé vraiment d'écrire sur mesure pour Fabrice. Mais sinon, non, les autres personnages, très souvent, et donc vous savez bien, très souvent les acteurs sont pas libres ou alors n'aiment pas un scénario ou alors voilà, il faut...
Oui, mais parfois c'est dur de pas avoir un visage pour lequel écrire.
Alors, parfois il y a un truc, c'est de penser à un acteur étranger ou un acteur qui est mort. Donc on peut arriver à formuler une forme d'incarnation et puis ne pas être déçu et après faire le déplacement pour aller vers un autre acteur.
Alors l'actrice dans Le Troisième Homme, elle, ça a toujours été elle, c'est Alida Valli. Alors Alida Valli, elle a une sombre histoire, elle a eu une sombre histoire parce qu'on a beaucoup dit qu'elle avait collaboré avec Mussolini, qu'elle était une copine de Mussolini. C'est un truc qui lui a vraiment collé à la carrière pendant très très longtemps. Et étonnamment, ça va évidemment très très bien avec le personnage qu'elle incarne dans Le Troisième Homme, qui est une femme immigrée qui n'a pas de papier. Et en fait, Harry Lime lui aurait éventuellement apporté ses papiers, mais il est mort trop tôt.
Il se trouve que le personnage féminin, qui va être donc incarné par Alida Valli, est étrange. C'est une femme qui a eu un passé très lourd, énigmatique. C'est une Tchèque qui a un faux passeport. On lui déchirera son passeport, elle ne le retrouvera pas à la fin. Mais elle fait partie également, de même que les héros du film comme Harry Lime, joué par Orson Welles, ou Joseph Cotten, qui s'appelle Holly. Elle fait partie de ce goût de Carol Reed pour les personnages déchus. Des personnages qui sont des aventuriers, qui n'ont plus rien à perdre. D'ailleurs, au début du film, Joseph Cotten va rencontrer Alida Valli, Anna Schmidt, elle lui dit « Je suis morte moi-même depuis que Harry Lime, qui était son amant, est mort ».
Alors Harry Lime, on l'a dit tout à l'heure, c'est Orson Welles dont Zelnick ne voulait absolument pas. Il disait que c'était du box-office poison. Sympathique, hein, déjà à l'époque.
Oui, peut-être que effectivement la stature d'Orson Welles, puis aussi sa réputation de metteur en scène, de metteur en scène des murges, peut-être que ça intimidait Zelnick.
Oui, mais ça aurait pu intimider Reed, mais pourquoi Zelnick?
Alors là,
c'est fou quand même. Parce que Zelnick, il aurait pu se dire, ça fait un beau nom sur l'affiche.
C'est-à-dire que le nom d'Orson Welles nous apparaît aujourd'hui auréolé de tout le prestige de l'histoire du cinéma, de tout le prestige de Citizen Kane. Mais Citizen Kane, à l'époque, avait été une forme d'échec, puisque au fond, il a été interdit, il a été bloqué. Randolph Hearst a voulu la mort du film. La splendeur des Amberson a été sabotée par le producteur. Il y a eu un montage... Il y a eu un montage qui a détruit le film voulu par Welles, avec son consentement d'ailleurs, enfin avec son consentement, ou plutôt avec sa passivité, puisqu'il s'est arrangé pour partir à Rio au moment où, en plein montage du film, c'est le pauvre Robert Wise qui a abouti à la dernière version des Amberson. Donc c'est vrai que Welles était associé à, en tout cas il n'était pas considéré comme une star, il était une sorte de génie. De génie paradoxal. Je ne sais même pas s'il avait un agent à l'époque. On ne devait pas le considérer comme un acteur...
Sérieux.
Comme un acteur accessible, comme une vedette.
Ouais. Alors en tout cas, à l'époque où se prépare Le Troisième Homme, il est en train d'essayer de faire son Othello et il manque d'argent. Et c'est la raison pour laquelle il acceptera de prendre le rôle de Harry Lime. Et il regrettera d'ailleurs une très mauvaise décision parce que comme il a besoin d'argent, il prend un cachet. assez important, mais il n'a pas l'idée de prendre un pourcentage sur les recettes, ce qu'il regrettera pendant beaucoup d'années, vu le succès du troisième homme. Donc, Holly Martins, Joseph Cotten, va découvrir que son vieil ami Harry Lime, Orson Welles, est une ordure intégrale. Et Benoît Peters, dans l'émission d'Adèle Van Rett, Les chemins de la philosophie, nous explique pourquoi c'est courageux d'avoir accepté de l'incarner.
Quand on se met au service d'un personnage qu'on n'aime pas, on lui donne toute sa chance, avec tous les risques que cela comporte. Et le risque porte un nom, dans le cas d'Orson Welles, le risque c'est Harry Lime, le héros du troisième homme. Le troisième homme qui peut apparaître, par certains côtés, comme une première version de La Soif du Mal, même si c'est un film de Carol Reed, d'après Graham Greene.
1949.
Un film de 10 ans avant, tourné dans les ruines de Vienne, on se souvient du thème de Sitar, enfin bon, voilà, c'est les images qu'on associe. Mais surtout, il faut se souvenir que Le Troisième Homme, c'est un film où Welles joue 10 ou 12 minutes, et où on parle de lui sans cesse. Le personnage qui va être l'abomination, qui est un trafiquant de pénicilline corrompu, enfin qui est vraiment un personnage abject dans cette Vienne complètement ruinée et appauvrie, responsable de la mort de dizaines de gosses, enfin vraiment le personnage le plus chargé, on le voit là apparaître avec un sourire et tenter de renouer ce qui peut l'être de cette amitié avec Holly Martins, cet écrivaillon joué par Joseph Cotten.
Ce qu'il y a de fou, c'est que on assimile tout ça dans le film, alors qu'on nous dit très très peu de choses. On nous dit juste qu'ils étaient amis d'enfance. Vous dites vous-même, ils ont dû se connaître à l'école et tout. Mais moi, je suis fascinée de voir dans le scénario à quel point ils n'ont pas besoin de nous faire la fiche Wikipédia de chaque personnage, et on n'est pourtant jamais perdu sur leur relation affective.
Joseph Cotten raconte des souvenirs, raconte l'apparition de Welles dans l'école. Il raconte qu'on avait envie d'être près de lui, qu'on se sentait grandi par sa présence. Donc la dépendance affective est quand même incarnée par le dialogue.
Mais d'où vient ce Harry Lime? On n'en sait rien.
Voilà, oui, c'est sûr. C'est-à-dire que c'est le propre des grands séducteurs, c'est-à-dire qu'ils arrivent tout à coup, c'est le propre de Don Juan, et d'une certaine façon, c'est le propre de Tartuffe, c'est-à-dire que de la même façon, Tartuffe, on parle de lui pendant les deux premiers actes, ce qui est quand même incroyable, et l'arrivée du personnage est bouleversante. Et là, de la même façon, d'autant qu'en plus on croit que le personnage est mort, et de savoir qu'il est revenu, que ce n'est pas lui qui est mort, mais quelqu'un d'autre, le rend d'autant plus fascinant.
Alors là, on va écouter comment Carol Reed nous amène à découvrir que Harry Lime est vivant. En fait, ça commence avec un chat. Et là, tout ce qu'on voit à l'image, c'est un chat qui vient dans une encoignure de porte se frotter contre une paire de chaussures. Pour l'anecdote, ils ont mis de la pâte de poisson sur les lacets pour qu'il puisse enfin venir se frotter à ses chaussures, et donc on ne voit rien, on voit juste une paire de chaussures, et on retrouve la propriétaire du chat qui, dans le plan d'avant, nous a dit ce chat n'aimait que Harry, et elle dit voilà, je ne l'ai pas connu en fait, cet homme-là n'est peut-être pas l'homme que je croyais qu'il était. Et donc il y a cette scène où elle parle avec Joseph Cotten, et puis Joseph Cotten s'en va, il a beaucoup bu, il n'arrive pas à draguer cette femme qui le fascine, il sent bien qu'elle ne sera jamais amoureuse de lui, il est un peu désabusé, il se promène dans les rues de Vienne et il a l'impression que quelqu'un le poursuit. Quelle espèce d'espion vous croyez être? Qui êtes-vous? Pourquoi vous me suivez? Le chat a mangé votre langue?
Come on out.
Allez, sortez de l'ombre.
Come out, whoever you are.
Montrez-vous. On voit qu'il est un peu beurré, il est adossé comme ça à une balustrade. Montrez-vous, mettez-vous dans la lumière. Vous travaillez pour qui? Et puis là, il y a une femme qui ouvre la fenêtre et qui dit mais arrêtez de faire du bruit. Et elle allume la lumière chez elle. Et d'un seul coup, on découvre Orson Welles et son sourire. Moi, ça m'a marqué. Hein. Mon idéal féminin, masculin. Et voilà, et la voisine énervée éteint la lumière et Orson Welles disparaît et Joseph Cotten se demande s'il a rêvé. C'est magnifique quand même.
Ouais, c'est magnifique, c'est brillantissime. D'autant qu'il y a un petit travelling avant aussi très, très discret qui s'approche du visage de Welles. Mais c'est-à-dire que Welles, c'est quand même l'incarnation du génie. Quand on pense qu'à 23 ans, il déclenche la guerre des mondes. J'ai vu des photos de la toute récente dans Libération. On le voit à l'âge de 23 ans, dans le studio d'enregistrement, un peu comparable à celui-ci. Et on voit à la fois son autorité, et il y a des photos où il a ce côté un peu poupin. Il a un regard très, très enfantin, très désarmé. On sent qu'il fait une énorme blague, puisque la guerre des mondes, donc l'enregistrement du roman de H.G. Wells, donc son homonyme, a déclenché une panique aux États-Unis, puisque on a cru que les Martiens étaient arrivés pour de bon. Mais il y a quelque chose de facétieux, un peu comme un gamin qui fait une mauvaise blague. Et cette dimension est quand même caractérise le personnage de Harry Lime. C'est-à-dire qu'on a beau, on va découvrir effectivement la nature de son trafic, les conséquences terribles de ce trafic.
Qui sont hors champ. Incroyable, parce qu'on en parle, donc en fait il fournit de la pénicilline trafiquée qui provoque des états épouvantables chez les enfants qu'on doit soigner avec et qui finalement se retrouvent totalement estropiés. Et il y a cette scène magnifique où le flic amène Joseph Cotten dans un hôpital, parce que Cotten ne veut pas trahir Harry Lime, et donc il l'amène dans un hôpital et toute la scène est hors champ, on ne voit pas ce qu'il voit, on est sur le visage de Cotten tout le temps. Et à la dévastation de son visage, on comprend qu'il voit des choses atroces.
On les voit dans cet hôpital pour enfants, on les voit s'arrêter devant des lits, on voit les infirmières qui s'approchent, qui prodiguent des soins. Il n'y a aucun contre-champ sur les enfants, mais sur le visage et du policier et de Joseph Cotten, on comprend les ravages, la nature, disons, de ce mal. Et c'est à la suite de cette visite que Joseph Cotten décide de rester à Vienne et de tendre un piège à Harry Lime.
Harry Lime, Orson Welles, qui, comme vous le disiez, a un visage rond, poupin, un petit nez en trompette. Et c'est la première fois qu'on le verra, puisque d'habitude, il se maquille toujours, il met un faux nez, il met des postiches. Et on ne sait pas par quel miracle, c'est le seul rôle qu'il a tourné sans maquillage du tout.
Si vous demandez, si vous faites une enquête sur Orson Welles, il y a des garçons de café à Paris qui peuvent vous parler de Citizen Kane. Mais en dehors de Paris, c'est essentiellement, même en Amérique, c'est essentiellement le troisième homme. C'est tout le monde se rappelle le troisième homme. Le troisième homme, c'est à cause beaucoup plus de la figure de Welles. D'ailleurs, Welles a toute une théorie explicative pour cette célébrité. Parce qu'il dit justement que tout le monde parle de lui tout au long du film et il fait très peu d'apparitions. Et c'est cette apparition magique, tout à coup, qui fait toute l'aura, si vous voulez, de ce personnage d'ailleurs qu'il a joué très bizarrement sans maquillage, parce que toujours et dans tous ses films, Welles a des prothèses, il a toujours un maquillage quelconque, il n'apparaît jamais sans maquillage, et c'est le seul rôle de sa vie qu'il ait joué sans maquillage au cinéma.
Voilà, Youssef Ishkapour qui a expliqué à Alain Weinstein sur France Culture que cette fois-ci, exceptionnellement, il a joué sans maquillage. C'est étonnant, non?
Ishkapour, il a écrit trois volumes de 600 pages sur Orson Welles, le mystère d'Orson Welles. Je l'ai précieusement à la maison. À vrai dire, j'ai dû en lire quelques pages seulement, mais je me promets un jour de me plonger dans cette œuvre. Oui, c'est-à-dire que Welles, c'est évidemment l'acteur, c'est aussi le démiurge. F for Fake, on pense par exemple avec ce jeu sur l'illusion. Il adorait la magie.
La magie, oui.
Et d'ailleurs, son apparition dans Troisième Homme relève presque d'un tour de magie, puisqu'il est là et il disparaît aussitôt, un peu comme un magicien qui est devant une porte capitonnée, et tout à coup, à peine on a ouvert la porte, hop, il est plus là. Et c'est ce principe d'apparition-disparition qui rend aussi le personnage tout à fait fascinant.
Alors, on parlait tout à l'heure de la fameuse réplique sur le coucou. On l'écoute d'abord, on en parle après.
What the fella said.
Tu sais ce qu'on dit, les Borgia, ils ont eu la terreur des blots de sang, mais ils ont produit Léonard de Vinci. Alors que les Suisses, ils ont eu la fraternité pendant 500 ans, et qu'est-ce que ça a produit? L'horloge à coucou. Les Suisses qui ont d'ailleurs répliqué que l'horloge à coucou, c'est pas eux qui l'ont inventé, c'est un Allemand. Un Allemand de la Forêt Noire qui s'appelait Monsieur Ketterer. Voilà. Ils font les montres, mais ils font pas les coucous. Alors, on ne sait pas pourquoi cette tirade-là, tout le monde dit que c'est Orson Welles qui l'a écrite.
Oui, lui-même dit qu'il a écrit son dialogue. En revanche, il n'a pas du tout participé à la mise en scène, parce que on a dit que Carol Reed avait été sous l'influence de Wells, et il l'a laissé un peu entendre au moment du succès du film, et puis des années plus tard, et on voit un entretien avec le gros Orson Welles qui cette fois n'est plus le svelte poupin de
troisième homme,
et même il pèse 150 kilos, il a sa barbe, sa voix de Jupiter. Je me souviens, il était venu à la Cinémathèque et on était encore à l'IDEC, et il avait demandé à rencontrer des étudiants de cinéma, et on était toute notre classe avec Arnaud Desplechin, justement, Pierre Trévidic et Pascal Ferrand, on était venus à cette séance comme on assiste à un oracle.
Ah oui.
Et il n'avait pas pu descendre l'escalier, donc on l'avait mis dans le monte-charge pour l'acheminer sur le plateau, enfin sur la scène où il était assis pour rencontrer les étudiants. Il était dans un monologue, d'ailleurs, absolument terrifiant. Personne n'osait lever la main pour lui poser une question. Et c'est vraiment un souvenir inoubliable. Mais c'est cette image, comme ça, d'une Zeus, du Jupiter, de cet homme bigger than life. Évidemment, il a prouvé par la suite qu'il était plus grand que les vivants, enfin qu'il était à la hauteur de sa légende, une légende d'ailleurs qui a fini par le détruire, puisque au fond tous ces films qu'il a rêvé de faire, qu'il a fait au compte-gouttes, il est sans doute lui-même, on découvre que lui-même était le propre artisan de sa destruction, qu'il y a quelque chose en lui qu'il ne voulait pas au fond se mesurer à cette légende de l'homme qui a fait Citizen Kane.
C'est-à-dire que c'est terrible de faire un tel chef-d'œuvre comme premier film. Qu'est-ce que vous pouvez faire après ? Alors oui, il y a eu Les Anderson, il y a eu Othello, qui est quand même un film sublime.
Sublime, qui a aussi eu
La Soif du Mal.
La Palme d'Or. Oui,
ouais. Oui, mais il en a fait des chefs-d'œuvre.
Ah oui, les autres films, et même Falstaff, jusqu'au bout, il a fait des films extraordinaires. Mais on sent qu'il était prisonnier de sa légende, un peu comme Chaplin pouvait à un moment être prisonnier de sa légende, sauf que Chaplin a su rebondir inlassablement, même après Le Parlant, il fait Monsieur Verdoux, proposé d'ailleurs par Orson Welles, justement. Ouais. Il s'entendait, il y a une photo, d'ailleurs on voit Welles et Chaplin ensemble.
Oui, elle est belle cette photo.
Ouais, on sent deux amis... De collégiens ensemble qui plaisantent. Mais ouais, Chaplin a eu cette force de sans arrêt, au fond, de tuer Charlot, alors qu'il aurait pu lui-même être enfermé dans Charlot, alors que Welles, au fond, s'est laissé dévorer par son propre mythe.
Alors, Welles n'a pas écrit Le Troisième Homme, c'est en tout cas ce que Graham Greene veut qu'on pense.
Pour beaucoup de gens qui ont aimé ce film, l'auteur du film, c'est Orson Welles.
Il a tout fait pour qu'on le croie.
Il a tout fait pour qu'on le croie. Ça, je veux dire que ça mettait en rogne Graham Greene.
Non, mais je comprends.
Il disait non seulement c'est de la blague, mais quelle escroquerie de faire croire ça. Et parce que, bon, Graham Greene, je l'ai connu. Hein, j'ai eu ce bonheur, ce privilège. On a entretenu une correspondance. Et par la suite, je faisais passer toute une journée chez lui à Antibes. C'était formidable. On a fait un grand entretien pour le magazine Lire. Après, on s'est écrit et puis on s'est revu à Paris. Et il me disait, c'est quand même... une escroquerie, bon, c'est un menteur de génie, hein. Orson Welles, c'était quand même, je crois qu'il apparaît en tout et pour tout 8 minutes dans le film.
Et il a une seule scène dialoguée en plus.
Oui, mais en plus, et puis c'est des scènes en clair-obscur, comme tout le film, enfin encore plus quand c'est lui. Et bon, mais ça, c'est un phénomène, vous qui êtes dans le cinéma depuis longtemps, vous savez, ça n'est que personne, on peut identifier un film à quelqu'un qui n'en est pas l'auteur, mais qui l'incarne, qui le symbolise, même s'il n'est là que 8 minutes. Et c'est marrant parce que il se trouve que j'ai... Enfin, c'est une petite histoire, mais je vous la raconte parce que ça va vous amuser. J'ai eu l'occasion de revoir un film assis à côté du metteur en scène. Mm-hmm. Pour l'anniversaire du film Z, assis à côté de Costa Gavras, qui l'a commenté à l'oreille. Hein. De temps en temps, il me disait à l'oreille des trucs... C'était formidable. Il disait, par exemple, c'est terrible, tous ces gens sont morts. Tous ces acteurs, ils étaient tous morts. Mais surtout, quand on voyait Yves Montand, il m'avait dit cette chose qui m'avait frappé et qui me ramenait au Troisième Homme, il disait, c'est incroyable, c'est Yves Montand qui symbolise, qui incarne Z, alors qu'on le voit 7 minutes.
Vous vous souvenez de ça, de Z, la présence de Montand dans Z, 7 minutes, quand vous entendez Pierre Assouline le dire, on se dit mais c'est pas possible, il est là beaucoup plus que ça.
C'est-à-dire qu'il est la victime, il est celui dont on fracasse le crâne à coup de tesson, enfin ou à coup de avec une sorte de manche en cuivre, ouais. et sa mort et l'événement et la déflagration, puisque c'est tout le système des colonels qui est désigné par cet assassinat. Et c'est l'objet de l'enquête, donc il est vraiment au cœur. Et en plus, c'est aussi une figure de martyr, puisqu'il s'effondre et sa mort ne bouleverse. D'autant, comme le film est construit par tout un jeu de flashbacks, la mort revient périodiquement, les images de son visage, de lui s'effondrant dans Z, c'est un film extraordinaire. Lui aussi, d'ailleurs, avec une musique aussi, qui est la musique de Vassilakis, je crois, qui a été aussi un porteuse... C'est un peu des films, des musiques, d'ailleurs, je pense même à Antoine Carrasque, qui préfigure Ennio Morricone.
Absolument, c'est-à-dire vous avez raison.
Il y a un thème comme ça, très, très ludique, très facile à identifier, qui colle pas forcément au climat, mais qui l'enrichit de manière souterraine et de manière extraordinaire.
Alors, on va faire un peu comme dans Le Troisième Homme, on a beaucoup parlé d'Orson Welles, il serait peut-être temps de l'entendre.
I think that movies depend so much on rhythm.
Je pense que le film dépend beaucoup du rythme. Un film est très proche de la musique.
Closer to music than a drama of the theater.
Bien plus qu'une pièce de théâtre.
That if the sound,
si le son et le rythme du son, surtout le rythme,
is wrong,
est mauvais,
no image can
aucune image ne sauvera.
Because the rhythm of the
sound. Parce que tout est dans le rythme du son. Moi, je pense vraiment que le son, c'est le premier sens, en tout cas pour le théâtre, et pas les yeux. Je pense qu'à l'origine du théâtre, il y a une histoire racontée par un conteur. C'est une voix, et cette voix détermine le rythme. Et son rythme donne celui aux images. Ce qui compte, ce n'est pas ce que vous dites, mais le rythme et la vitesse à laquelle vous le dites. C'est valable pour toutes les voix. D'ailleurs, quand je mets en scène, je tourne le dos au plateau. C'était une archive de Cinéma. C'est la même année que la Cinémathèque, la même semaine en fait. Il était venu parce qu'on lui remettait un César d'honneur, c'était en 82. Et il a fait un jour Cinémathèque et un jour déjeuner avec la presse. Et Cinéma était venu filmer ce déjeuner et c'est cela qu'on a entendu. Tourner le dos au plateau pour mieux les écouter parler, ça a du sens pour vous ?
Alors le son commande, la voix commande. Alors évidemment, comme c'est lui qui a la plus belle voix de tout le cinéma mondial, on comprend qu'il fasse l'éloge de la voix. ce qui est très bizarre avec Orson Welles, c'est qu'il adorait par exemple Sacha Guitry. Il adorait des metteurs en scène qui n'étaient pas des cinéastes du visuel, entre guillemets. Mm-hmm. Et alors que son langage cinématographique est incroyablement inventif, novateur, avec tout ce jeu sur la profondeur de champ, le montage, en réalité, c'est très, très curieux que lui-même fasse la primauté de la voix. Et alors, en ce qui me concerne plus modestement, non, c'est vrai que la voix des acteurs, j'ai travaillé avec Fabrice Luchini, évidemment, c'est un bonheur.
C'est à lui que je pensais, évidemment.
Oui, je pensais à lui, bien sûr, la diction. Mais pourtant, si je devais quand même qualifier quelque chose qui, pour moi, fait vraiment l'essence de Fabrice, je pense que c'est un acteur du muet. C'est-à-dire que rien n'est plus beau avec lui que les moments où il ne dit rien, les moments où il a ce regard étonné, ce regard perdu, ce regard angoissé. Il a la capacité quand même d'exprimer par le visage. Sans ça, il ne serait pas un acteur complet.
Alors, c'est l'heure de notre instant Godard, comme tous les jours, puisque la dernière émission, ce sera une interview de Jean-Luc Godard. Tous les jours, nous entendons sa voix.
Je veux dire, c'est bien gentil de répondre à ces questions.
Alors, Jean-Luc Godard, que pensez-vous du Troisième Homme et de Carol Reed ?
Déjà, dès l'époque, j'aimais pas du tout Carol Reed. Depuis son premier film. Parce que je trouvais que c'était un faiseur.
À quoi on reconnaît un faiseur au cinéma?
Parce qu'il fait et parce qu'il oublie de faire.
Merci, Jean-Luc Godard. On vous retrouvera demain. Mmh. Mon cher Philippe Leguet, c'est l'heure du questionnaire. Est-ce que vous êtes prêt ?
Oui, je suis prêt.
Alors, la première séance dont vous vous souveniez ?
Alors, la première séance, souvenir inoubliable, c'est Laurence d'Arabie.
Pas
J'ai
mal.
7 ans et mes parents m'ont amené voir ce film. Je me souviens très bien, c'est au Gaumont-Colisée. Je me souviens encore très bien de la salle. Et je crois que comme j'étais un peu petit, on n'avait pas déplié le fauteuil, donc j'étais assis sur le bord du fauteuil. Et l'épopée de Laurence, évidemment la splendeur des images, la musique de Maurice Jarre, et surtout ce détail, il y a cette scène où Laurence d'Arabie est confrontée à des sables mouvants, au milieu, dans une tempête de sable, et il y a son jeune ami, son jeune valet, enfin celui qui s'occupe de lui, est inspiré par les sables mouvants. Et cette image m'a vraiment fait faire des cauchemars. Partout où j'allais à la plage, je voyais des sables mouvants partout.
La dernière séance qui vous est marquée ?
Alors c'est hier soir, j'ai été voir Annette de Léos Carax. Ah. Alors c'est un éblouissement.
C'est magnifique.
J'ai aucune réserve sur ce film.
Moi non plus.
C'est un éblouissement et j'ai du mal à comprendre ici ou là certaines réserves. Enfin, c'est voilà, tout est magnifique. La conception, la photo de Caroline Champetier, tout est merveilleux.
On est bien d'accord. Votre film de chevet ?
Alors là, je crois que spontanément, je reviendrai toujours à Chaplin, aux Lumières de la Ville. C'est peut-être le film que j'ai vu le plus de fois. La fin des Lumières de la Ville, les retrouvailles de Charlot et de l'aveugle qui voit, c'est quelque chose qui... Je ne peux pas m'empêcher de sentir les larmes monter aux yeux à chaque fois que je vois ce film.
Et la musique aussi.
Et la musique de Chaplin. Mais tout Chaplin, en fait. On pourrait citer aussi Le Cirque que j'adore. Et je pense que Chaplin est vraiment le retour... à une sorte d'essence du cinéma dont on ne se lasse pas.
Il faudrait dire à tous les gens qui pensent que le cinéma est mort d'aller revoir les films de Chaplin. Peut-être qu'ils comprendront que le cinéma ne se laissera pas tuer comme ça.
Ouais.
Le film dans lequel vous aimeriez vivre ?
Alors c'est une question très, très, très ambiguë parce que ce n'est pas forcément un chef-d'œuvre dans lequel on a envie de vivre. Mais le titre qui m'est venu spontanément, c'est Satiri contre Fellini.
Ah bon ?
Oui, parce
Quelle
que
drôle d'idée.
J'ai jamais participé à une orgie. je suis quelqu'un d'assez prude et tout. Et je dois dire que quand je vois les orgies de Satyricon, la débauche, les cochons qui avec des oiseaux à l'intérieur et tout ce faste et toute cette dépense et la langue italienne et Rome antique, j'avoue, je me dis, mais ça devait être pas mal de vivre à cette époque quand même.
Le film classique qui vous laisse de marbre.
Il y en a plusieurs, et j'ai presque eu l'embarras des choix. Je crois, alors je me suis décidé sur L'Aventura.
Ah oui.
Alors L'Aventura, j'ai essayé. C'est-à-dire que vraiment, d'ailleurs, cette notion de un classique qui vous laisse de marbre, je me souviens que la première fois que j'ai vu La Règle du jeu, je devais avoir 15 ou 16 ans, j'ai rien compris à La Règle du jeu. Je suis vraiment resté complètement de marbre et je trouvais ça même trivial, vulgaire. Enfin, j'étais très déçu par le film. Je l'ai revu une deuxième fois et pareil. Et puis, il m'a fallu que 3 ou 4 fois pour me faire à ce film. Et L'Aventura, tous les 10 ans, je me dis, allez, je vais essayer de voir L'Aventura.
J'y retourne.
Je vais essayer de comprendre. Et je n'aime rien de ce film, sauf peut-être le début, la disparition qui est extraordinaire, le découpage. Mais je préfère 10 fois plus La Nuit, par exemple. J'aime beaucoup Antonioni, mais vraiment L'Aventura, je cale là-dessus. Et je cale, je crois, sur l'idée de modernité. Je crois que c'est cette idée-là, au fond, à laquelle je résiste.
Alors, la pépite que personne ne connaît et que vous adorez, et que vous aimeriez nous conseiller ?
Pendant longtemps, ça a été à bout de course de Sidney Lumet, mais je m'aperçois que maintenant que les gens commencent à connaître ce film.
Oui, Running on Empty.
Voilà,
c'est trop original.
Un film superbe de Sidney Lumet, sans acteur connu, et qui est bouleversant. Et là, aujourd'hui, je dirais par exemple Le Bourreau de Berlanga.
Ah, je ne connais pas.
Un film espagnol avec Nino Manfredi. Et Berlanga, ça a été un immense scénariste, c'est un personnage. Il a tourné ce film en plein franquisme, et c'est l'histoire d'un brave type qui devient un bourreau pour des exécutions comme il en existait dans les prisons de Franco. Mm-hmm. Et ce film a réussi à déjouer toutes les censures parce que c'était une comédie, et il est d'une force comique et d'une force tragique à la fois qui est extraordinaire.
Votre voix de cinéma préférée ?
Alors, on a évacué Orson Welles, dont on a parlé de l'émission.
Il est hors concours, on va dire.
Alors, je crois que... Alors, Côté homme, il y a James Mason, qui est vraiment le bonheur d'écouter James Mason et cet anglais, ce British. Et côté femme, je dirais Delphine Seyrig.
Ah oui. Ah oui.
Impossible d'oublier Delphine Seyrig. Vous évoquiez Baiser volé tout à l'heure. Là, je ne suis pas une femme, je ne suis pas une apparition, je suis une femme. Je crois que quand Delphine Seyrig dit ça, tout est dit.
Alors, Philippe Leguet, votre salle de cinéma préférée?
Alors, c'est le cinéma des cinéastes, près de la place Clichy, la grande salle de cinéma des cinéastes.
C'est marrant parce que vous revenez du Festival de Cannes, moi je pensais que vous alliez me dire la salle de Bussy, que je trouve une salle exceptionnelle.
Ah oui, mais alors la salle de Bussy, on y va une seule fois par an, voilà. Enfin, c'est, alors que ma salle, vraiment, où je retourne et où je suis toujours content comme un rendez-vous, parfois d'ailleurs j'y vais, il me suffit de savoir que la salle, qu'un film est diffusé dans la grande salle pour aller le voir, même si je suis pas absolument dingue pour aller le voir. Et...
Ah, vous faites confiance à la programmation de la
oui,
salle, c'est bien
absolument,
ça?
Absolument, ouais, tout à fait.
Votre prochaine séance?
Alors, c'est Titane de Julia de Courneau. Elle montait dans la salle à côté de la mienne quand je montais mon prochain film, L'homme de la cave. Et de temps en temps, je voyais une image comme ça. En allant chercher le café, il y avait la porte qui était entrouverte. Et j'avoue que j'étais vraiment fasciné par le peu que je voyais. Et le contraste aussi de Julia de Courneau avec son film, parce qu'elle, elle est absolument charmante, elle est très urbaine, on prenait un café de temps en temps, et apparemment le film est une grande claque. Mais je peux pas vous en dire plus, parce que je ne l'ai pas vu.
Ah, film formidable, vraiment, je vous le conseille. Et dites-moi, dans votre salle favorite, il n'y a pas le problème du pass, pas du pass, on vous demande le pass, ils ont fait une jauge à moins de 50, ça se passe comment en ce moment?
On m'a pas demandé le pass hier quand j'ai été voir Annette. Et je vous dirai ce soir quand je vais y retourner.
Bon. Votre vœu cinéphile?
Alors, c'est un vœu que j'aurais pas conçu de formuler il y a 3 ou 4 ans. Mon vœu cinéphile, c'est qu'on continue à voir des films dans les salles de cinéma. Et c'est vrai que ce vœu qui paraît absurde devient aujourd'hui une réalité. Parce qu'on sent que les salles de cinéma sont menacées. Il y a de moins en moins de spectateurs. La pandémie a été un truc terrible. Les salles, ont été fermées pendant 10 mois. Là, le pass, même si je suis archi favorable au pass, c'est quand même un coup de poignard dans le dos de l'avoir installé si rapidement. Et c'est très dur. Et au fond, toute la demande concurrentielle, les câbles, les Netflix et compagnie, il faut garder ce lien à la salle, ce lien primitif à la salle de cinéma. Qui est vraiment l'endroit du rêve, du partage.
Et de l'émotion.
Et de l'émotion.
Merci Philippe Leguet.
Merci.
Allez, encore un petit peu de ritournelle d'Antoine Carras pour se dire au revoir. Eh bien, c'était le deuxième volet de notre série d'été, les 10 films qui ont changé nos regards. Une émission réalisée par Doria Zénine, préparée par Meryl Moneghetti et Lila Bozos. À la technique, c'était Félix Delacour. Et demain c'est mercredi, nous parlerons de Happy Together avec Jacques Audiard. Au revoir et à demain.